Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes mardi 5 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les grandes lignes de ce journal. Deux jours après l'attaque du camp de l'armée, la situation reste tendue à Ménaka. Des tirs d'obus ont été entendus ce matin aux environs de la ville. Nous sommes environ 8 milliards d'individus sur la Terre. L'information a été donnée ce matin lors du lancement du rapport annuel de l'Agence des Nations Unies en charge de la santé sexuelle et de reproduction, UNFPA. Le dossier de la semaine s'intéresse aux conséquences de la petite corruption, une pratique qui passe inaperçue. Le développement de ces titres dans un instant avec Juliette Koulibaly. Mamadi Keïta assure la mise en onde. Un calme précaire règne à Ménaka deux jours après l'attaque du camp militaire des éléments de l'EIGS. Cette attaque a fait plusieurs victimes. La peur se lit sur les visages de certains habitants. Pendant ce temps, des déplacés continuent d'affluer vers la ville en provenance notamment d'Andirabukane, deux autres localités qui ont subi des attaques terroristes ces derniers jours. Mamadou Samasekou.
La situation reste tendue à Ménaka, même si l'armée continue de patrouiller dans la ville depuis l'attaque de son camp ce dimanche. Des sources locales rapportent que le commerce et les services ont été fermés suite à une alerte donnée ce mardi matin par les autorités militaires. Les mouvements de la population ont diminué dans le centre-ville. Beaucoup d'habitants se sont tirés chez eux, surtout après les tirs d'obus entendus dans les environs de la ville, expliquent les mêmes sources. Au même moment, la ville continue de recevoir des déplacés. Des sources indiquent que de nombreuses familles en provenance d'Andirabukane sont arrivées à Ménaka. Celle-ci aurait fui les violences dans cette localité. Parmi ces déplacés figurent des blessés qui auraient été conduits dans les structures sanitaires, précise-t-elle. Ces mêmes sources ajoutent qu'une session des États généraux de la jeunesse qui devrait se tenir aujourd'hui a été annulée.
Selon un habitant de Ménaka qui a requis l'anonymat, la situation est actuellement sous le contrôle de l'armée malienne. Il affirme que de nombreux ménages déplacés sont arrivés dans la ville. Ceux-ci bénéficient de l'assistance des habitants. Il ajoute que l'instabilité d'un réseau de téléphonie saboté par des terroristes continue de pénaliser les habitants de Ménaka. Il est joint par Mamadou Samasekou.
Vers le camp militaire, je voulais savoir, ça va. Le camp, c'est à peu près 5 km de Ménaka, même la ville de Ménaka, même quoi. Là où il y a des dégâts, il y a des fumées, il y a tout chose, ça c'est vers le camp militaire. Là où Barkhane était installé auparavant. Donc nous-mêmes qui entendons de vous parler, nous on voit des fumées, on voit toutes choses. C'est l'armée qui peut nous donner les détails très clairs. L'armée, elle a le contrôle pour le moment. Malheureusement, c'est le réseau Orange qui a été gâté totalement. Même pour trouver la connexion de la terre, là, il nous faut la wifi des ONG, là, de la wifi des camps militaires. Là. Depuis cette situation d'Andirabukane, toute la population d'Andirabukane est à Ménaka, est installée à Ménaka. On n'a pas vu d'aide pour le moment.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plus de deux semaines après la reprise de Kidal par l'armée, l'administration s'installe progressivement. Des éléments de la police nationale, de la gendarmerie et de la protection civile sont déjà sur place. Le nouveau gouverneur de la région y est également attendu dans les prochains jours. Ali Cissé nous fait le point.
Des sources locales rapportent que la vie reprend son cours normal à Kidal. Les boutiques et les commerces ont rouvert. Les engins circulent sans difficulté à l'intérieur de la ville. Et les personnes vaquent librement à leurs occupations, indiquent les mêmes sources. Cependant, des barrages érigés par les militaires et leurs partenaires russes sont signalés aux différents carrefours dans la ville, avec des contrôles systématiques des personnes. Aucun engin n'entre ni ne ressort de la ville. Des mesures justifiées par le souci d'améliorer les conditions sécuritaires dans la région. Toujours des témoins indiquent aussi que les habitants commencent à fréquenter le commissariat pour établir leurs pièces d'identité. Mais les populations ayant fui la ville avant l'arrivée de l'armée ne semblent pas être rassurées, malgré l'appel des autorités. Une délégation de l'exécutif régional avec à sa tête le général de division Eladj Agamou est arrivée ce matin à Gao. Le nouveau gouverneur est attendu dans les prochains jours à Kidal.
Un mini-car en provenance de la foire de Dialassagou a heurté hier lundi un engin explosif improvisé. L'incident s'est produit entre Doundé et Garou dans le cercle de Bankass et région de Badjangara. Le chauffeur et son apprenti ont été gravement blessés et le véhicule endommagé. Ils ont été admis au CCRF de Bankass. Ces mines présentent actuellement un danger pour les usagers de ce tronçon. Autre actualité de cette édition, la population mondiale vient de passer le cap de 8 milliards d'individus. L'information a été donnée ce matin 5 décembre lors du lancement du rapport annuel de UNFPA, l'agence de l'ONU en charge de la santé sexuelle et de reproduction. Il s'agit de ses responsables pour ses responsables d'alerter les autorités nationales sur ce dynamique démographique afin d'analyser les menaces et les opportunités dans tous les secteurs du pays. Reportage signé Kouma Finkeita.
Le rapport qui vient d'être lancé par UNFPA démontre que la démographie mondiale augmente de façon progressive. Selon le coordinateur des populations et développement de UNFPA, Dr Cheikh Kader Mbaye, l'enjeu de cette croissance est de satisfaire aux besoins essentiels de la population.
Le défi majeur, ce n'est pas la fécondité. Il faut tout simplement se focaliser sur la défense des droits et la liberté du choix. Il faut mettre en place des politiques tendant à faciliter justement le libre arbitre des individus pour développer leur potentiel.
Si pour certains pays la situation est alarmante, le directeur national de la population indique que c'est plutôt une opportunité pour le Mali de s'y prospérer. Dr Sekou Amadou Traoré, directeur national de la population.
Dans certains pays, on parle de vieillissement. Mais chez nous, on parle effectivement d'une population jeune. Nous devons quand même œuvrer de telle sorte que cette jeunesse puisse quand même disposer de tout son choix, de ses droits, de ses potentialités.
Selon le rapport de UNFPA, les deux tiers de la population mondiale vivent dans des endroits où la fécondité est faiblement élevée.
Place maintenant à notre dossier de la semaine. La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés et publics. Des actions de sensibilisation sont menées par des associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue qui est la petite corruption passe souvent inaperçue. Qu'est-ce que la petite corruption? Comment est-elle vue par les populations? Que prévoit la loi? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Adama Amadou Aïdara.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler ainsi des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption et j'en suis consciente aussi.
Pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne ici Ibrahim Ben Mamata.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdoulkarim Diamoutene, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50% de la population qui est censée être pauvre, et donc cette corruption-là, elle ne fait qu'aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance d'ignorer, et puis surtout quand on voit un peu les rapports, et c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne, parce qu'elle est à tous les niveaux.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur toutes ses formes. Son président Moussa Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont franchement des pratiques que nous dénonçons tous les jours. C'est de demander aux citoyens de refuser cette corruption ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
C'est ce qui met fin à cette édition. Mais avant, nous recevons à présent Mariam Koulibaly pour nous introduire le grand dialogue. Alors Mariam, de quoi parle l'émission de ce soir?
La lutte contre le sida au Mali quand les chiffres alertent. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons Dr Bassirou Diallo, Science Service System Advisor à ONU SIDA, Ousmane Traoré, chef de département planification, suivi évaluation au secrétariat exécutif du HCNL. Mariam Touré, porte-parole de l'Association des personnes vivant avec le sida, présidente de l'association REMA+.
Merci et bon débat. Ce journal vous a été présenté par Juliette Koulibaly. Mamadi Keïta assurait la technique.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le magazine Toutes les femmes de ce soir parle du VIH-Sida chez les femmes enceintes et les moyens pour éviter la transmission chez l'enfant. Ce numéro est réalisé par Fatoumata Kodjo avec le concours de nos correspondants.
La femme peut transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. C'est pourquoi les femmes subissent des tests volontaires de dépistage du VIH pendant la grossesse dans de nombreuses aires de santé au Mali. Une étape importante qui permet une meilleure prise en charge du bébé et de sa maman en vue d'éviter toute contamination. Docteur Mamadou Koulibaly, point focal SIDA au CCRF de Bankas.
Et si le test revenait positif, ça permet de mettre la dame sous traitement ARV. Quand ce traitement est bien conduit et bien suivi par la dame, sa charge virale va être indétectable. Entendez par charge virale la quantité de virus qui circule dans le sang de la dame. La dame n'a aucune chance de transmettre la maladie à aucune autre personne, ni son conjoint, encore moins son enfant.
Cette année, le taux de prévalence de la transmission mère-enfant du VIH est de 33,33% à Yoroso. Selon Boubacar Bachili, médecin au CCRF de Yoroso, les femmes enceintes reçoivent gratuitement des conseils lors de la consultation prénatale.
De 2022 à cette année, nous avons en moyenne 5 femmes mères séropositives. Si les femmes tombent enceintes, elles doivent d'abord bénéficier des consultations prénatales. Donc, elles sont conseillées et elles doivent faire un dépistage par rapport au VIH-Sida. La prise en charge, n'est-ce pas, est totalement gratuite.
Sur le plan national, près de 500 000 femmes enceintes subissent les tests de dépistage. Le taux de prévalence tourne autour de moins 1% selon Ousmane Traoré, responsable planification et suivi évaluation du Haut Conseil national de lutte contre le sida.
On a une estimation du nombre de grossesses annuelles qui se chiffre en 2022 vers les 1 100 000. On a environ 660 000 femmes qu'on voit en CPN. Les femmes qui acceptent de faire les tests de dépistage sont autour de 500, 549 000, 550 000 par an. Il y a environ une prévalence autour de 0,5%.
Les femmes dont la séropositivité est connue sont confrontées à de nombreuses contraintes, notamment l'accès aux soins de qualité. Comme en témoigne Mme Mariam Touré, présidente de l'Association des personnes vivant avec le VIH.
D'abord, la faible prise de décision des femmes au dépistage et à la prise en charge. Ensuite,
Les difficultés d'avoir accès aux résultats du PCR des enfants de mères séropositives. Nous avons la discrimination et la stigmatisation en milieu de soins et dans la communauté. On a constaté des rejets, des divorces.
Et pourtant, l'ONU-SIDA affirme soutenir ces femmes infectées par les VIH à travers les plaidoyers et la mobilisation des ressources. C'est ce que nous explique Dr Bassirou Diallo, médecin spécialiste en santé publique à ONU-SIDA.
Nous avons appuyé le Mali à avoir un cadre stratégique national de lutte contre le SIDA. Une des cibles du cadre stratégique, ce sont les femmes enceintes. On appuie aussi des projets spécifiques à travers les associations telles que le REMA+, le réseau malien des personnes vivant avec le VIH. Nous avons déjà eu à faire beaucoup d'activités.
Les spécialistes de la santé affirment que la meilleure prévention reste la connaissance de son statut sérologique. Ainsi, ils exhortent les femmes enceintes à se faire dépister.